Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatche, le Ravi Radio Grenouille, une émission animée par Michel Guiraud et Rafi Amal. Et avec nous aujourd'hui, Eugène Caselli, président de Marseille Provence Métropole et candidat à la primaire socialiste pour les municipales de 2014. Bonjour.
Bonjour.
Une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guiraud qui s'y colle.
Je suis en voyage en Grèce et j'ai besoin de ton soutien d'urgence. Pourrais-tu m'avancer un prêt pour régler un souci urgent ? Contacte-moi par email car je suis injoignable par téléphone. Je compte énormément sur toi. Que tous ceux qui ont reçu comme moi ce message d'Eugène Caselli le 19 juin dernier se rassurent. Il n'est pas en cause dans la faillite de la télévision publique grecque. Et cet email était un faux grossier. Eugène Caselli est bien devant nous. Il respire la forme. Vous semblez juste un peu tendu, mais là, c'est bien normal. Votre passage dans cette émission a en effet toujours des conséquences immenses sur votre destin. La dernière fois, c'était il y a 5 ans, le 11 avril 2008. Vous étiez alors le premier secrétaire de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône. Vous nous aviez parlé d'une véritable convergence de vues politiques avec Jean-Noël Guérini et de votre regret qu'il n'ait pas été choisi maire de Marseille à 985 voix près. Quelques jours plus tard, le 17 avril, vous deveniez, à la surprise de tous, président de Marseille Provence Métropole. C'est l'effet Grande Tchatche. Cette émission est un formidable accélérateur de carrière. Que les 9 personnalités qui postulent avec vous à la primaire pour désigner le candidat socialiste aux prochaines municipales tremblent. Longtemps, beaucoup ont cru que vous n'occuperiez jamais le devant de la scène. Vous avez attendu vos 47 ans en 93 pour tenter votre chance lors d'une élection. Échec. La deuxième fois, en 2008, vous avez 61 ans et vous triplez la mise conseiller municipal, communautaire et président de MPM. En 2013, les premiers sondages ne vous donnent pas en tête de la future primaire. Cela ne vous décourage pas. Vos adversaires raillent votre gestion prudente et consensuelle de la communauté urbaine qui frise l'immobilisme. Vos amis louent vos capacités à apaiser, à rassembler et à avancer même avec une majorité relative. Là où d'autres haussent la voix et n'hésitent pas à donner dans la surenchère, vous jouez la partition d'un homme responsable, loin des joutes politiciennes qui a forgé son expérience avant d'entrer en politique en gravant, un à un, les échelons d'une entreprise privée, la Caisse d'épargne. Et comme pour faire taire ceux qui soulignent votre faible notoriété nationale, que vous tentez d'atténuer en multipliant les séjours parisiens, le Grand Prix 2013 de la Marianne d'Or de l'Action publique vous a été attribué pour la réhabilitation du Vieux-Port. Alors, le changement, c'est maintenant avec Eugène Caselli, un maire normal pour Marseille. Un conseil, multipliez les grandes tchatches, c'est votre meilleur atout.
Eugène Caselli, un commentaire sur ce portrait à la sauce Ravi.
Bien d'abord, je crois que c'est un vrai portrait. Et puis, ce que vous dites, je me souvenais plus de la date exacte, mais je savais que c'était juste avant l'élection surprise à la communauté urbaine.
Elle n'était pas surprise pour tout le monde. Hein.
J'avais fait une grande tchatche. Ouais. Et c'était une semaine avant, donc c'est comme quoi... Eh bien écoutez, j'espère que l'avenir vous donnera raison et que la Grande Tchatche va être un formidable accélérateur pour moi dans le cadre de ces primaires socialistes.
Ah ben justement, avant d'arriver au fond du sujet, ces primaires pour les municipales 2014, un mot sur l'actualité nationale avec un petit tremblement de terre, les législatives partielles à Villeneuve-sur-Lot, avec un 21 avril à l'envers, le candidat socialiste éliminé au premier tour, et face à face, un UMP et un Front National. Un commentaire ?
C'est pas un 21 avril à l'envers, c'est un 21 avril qui se renouvelle. Je crois que c'est très préoccupant. Très préoccupant pour le Parti Socialiste, effectivement. Ça fait la 8e élection partielle que nous perdons, dont 4 au premier tour. Je crois qu'il faut se poser des questions. Et le deuxième enseignement que l'on peut tirer, c'est qu'effectivement, la montée du Front National est maintenant extrêmement présente. Dans l'électorat. Ce n'est plus un vote simplement de rejet ou un vote de protestation. Il s'agit pour beaucoup maintenant d'un vote de conviction. Ça donc, c'est en train de devenir dangereux pour la démocratie. D'autre part, la façon qu'a l'UMP de traiter le problème est extrêmement préoccupante parce que l'UMP n'est pas pour le Front Républicain. Et je crois que c'est un mauvais exemple à donner dans la période qui nous occupe. Je crois qu'il faut faire barrage au Front National.
Il a encore l'avenir, ce Front Républicain. On a vu des députés socialistes, Razi Hammadi par exemple, qui disaient que c'était caduque. D'autres le revendiquaient encore. On voit qu'il a fonctionné, mais partiellement.
Je ne sais pas si c'est caduque, mais effectivement, ça avait au moins une vertu. c'est empêcher les candidats du Front National d'être élus au second tour. Si ce Front Républicain explose, tout peut arriver demain. Et je crois que tous les Républicains qui ont la République, la laïcité chevillée au corps doivent se poser des questions.
Alors, chez les électeurs de gauche, c'est de plus en plus difficile. Certains disent, mais la droite s'est radicalisée, fait de un pas après l'autre, avance vers le Front National. Et on l'a vu aussi dans le Vaucluse, dont on parlait dans le Ravi le mois dernier, avec l'élection de Maréchal Marion Le Pen. Ça devient difficile. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces électeurs qui n'arrivent plus à voter UMP?
Bien, ça a commencé avec Nicolas Sarkozy. Et notamment dans la deuxième phase de sa campagne présidentielle. L'appel au Front National était très clair, l'appel aux valeurs du Front National était très clair, le partage avec les valeurs, si on peut appeler ça valeur d'ailleurs, du Front National était aussi très clair. Effectivement, ça fait école à droite. Et c'est dangereux pour la démocratie, c'est dangereux pour la République, c'est dangereux pour les valeurs républicaines. Donc moi, ce que je dis aux électeurs, c'est qu'il faut se remobiliser sur les valeurs fondamentales de la République, c'est-à-dire la tolérance, la solidarité, la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et là, effectivement, on se mobilisera véritablement contre le Front National et on aura un véritable mur défensif contre l'offensive du Front National qui est maintenant réelle et qui est très préoccupante, je le répète, pour la démocratie.
Alors cette législative partielle, c'est la huitième depuis l'élection de François Hollande et c'est la huitième perdue par le Parti Socialiste. Ça fait une longue série, il manque plus maintenant députés près, la majorité absolue est même menacée à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas, malgré tout, le signe de quelque chose de négatif dans la façon dont est vécue cette première année du gouvernement Hollande?
Je crois que la crise que nous vivons est une crise très profonde. Je crois que le gouvernement aujourd'hui a pris des mesures qui auront de l'effet, mais de l'effet à plus long terme. Effectivement, il y a une période très compliquée à passer pour quiconque est au gouvernement aujourd'hui. Moi, je crois que le gouvernement doit effectivement assumer la politique qui est la sienne, parce que je crois que manifestement, il n'y a pas d'autre politique possible aujourd'hui dans le contexte de crise qui est la nôtre. Et à partir de là, effectivement,
même s'il y a des
le gouvernement souffre d'impopularité. C'est bien normal dans la période que nous vivons. Donc je crois qu'il faut attendre que la politique du gouvernement donne ses premiers effets pour pouvoir sortir un petit peu la tête de l'eau. Jusque-là, effectivement, les élections partielles seront des élections très difficiles pour le Parti Socialiste, qui est le parti au pouvoir aujourd'hui.
Alors un an, comme le disait Michel Gaud tout à l'heure, un an après l'arrivée de François Hollande, les réformes tardent à venir, certains disent que c'est même pas les bonnes. Vous, vous dites qu'il faut laisser du temps au temps, et sachant quand même qu'il y a une cascade d'échéances électorales qui arrive, avec notamment les municipales en 2014.
Je dirais qu'on ne réforme pas la France après 10 ans de gouvernement de droite, 10 ans de gouvernement quasi absolu de droite. Et on ne réforme pas la France dans la période de crise qui est la nôtre, celle que nous vivons, qui est une crise européenne, qui est une crise mondiale, qui est une crise profonde de mutation de nos sociétés liées à la mondialisation, sans effectivement avoir du temps devant soi. Je crois que ce qui manque au gouvernement aujourd'hui, c'est le temps. Donc ce temps, il faut le passer. Hein, il a une durée d'un an, 2 ans peut-être, dans lequel il faudra construire l'avenir et poser les réformes de l'avenir. Je crois que le gouvernement a posé les premières, il faut qu'il continue, quitte à assumer pendant un certain temps une impopularité. Ce qui compte, c'est d'arriver en 2017 en ayant résolu un maximum de problèmes qui touchent la France aujourd'hui. Mmh. Et ce jour-là, je crois que les électeurs auront assez de sagesse pour voir le résultat obtenu. Aujourd'hui, le résultat n'est pas là, bien entendu, parce que le temps manque.
Eugène Casilli, vous ne regrettez pas trop la fameuse réforme qu'a fait Jospin pour supprimer le septennat et mettre un quinquennat? On voit que le gouvernement est dans la précipitation. En tout cas, il est assujetti au temps.
C'est ça. Ce que disait Raymond Barre à l'époque, il faut laisser le temps au temps. Ce qu'a répété Mitterrand ensuite, il faut du temps pour réformer. Je crois que c'est vrai. Je crois que le temps présidentiel n'était pas le temps du gouvernement. Aujourd'hui, le temps présidentiel et le temps du gouvernement, eh bien, ce sont les mêmes, ce qui veut dire que le président de la République n'est plus protégé. C'est-à-dire qu'il ne porte plus véritablement les réformes dans le temps, Il est au même niveau que le Premier ministre en termes de réformes et en termes d'impopularité. Il arrivait souvent que le Premier ministre était impopulaire parce qu'il portait des réformes lourdes, et le président de l'autre côté était protégé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'était pas le cas pour Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas le cas pour François Hollande non plus.
Michel ?
Alors, autre actualité, la SNCM avec un plan de sauvetage, dit-on, mais aussi de suppression de postes, hein, plus de 500, et une lettre, Union Sacrée, entre Gaudin, Guérini et Vauzel. Tiens, il manque quelqu'un là dans la liste. Vous auriez aimé qu'on signe cette lettre sur le fond, ça aurait été logique.
Ça, c'est bien le côté sûr. Mesquin du ravi.
Hein. Non, mais j'entends bien. J'ai moi-même remarqué que je n'avais pas été convié par quiconque a signé cette lettre, et j'ai appris son existence par une dépêche AFP, comme vous probablement. Mais moi, j'avais déjà anticipé, moi il y a 2 mois que j'ai écrit à François Hollande sur la SNCM. Donc je n'ai pas attendu l'initiative de M. Jean-Noël Guérini, de M. Jean-Claude Gaudin, de M. Michel Vauzel. S'ils ne m'ont pas convié, c'est peut-être qu'ils estimaient que j'avais déjà fait le travail à l'époque. Moi, ça fait 2 missives que j'envoie à Frédéric Cuvillier et au président de la République pour attirer son attention sur les conséquences sociales d'un démantèlement de la SNCM. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que le gouvernement n'a pas pris tout à fait la mesure du problème d'emploi dont souffrait cette ville, dont souffrait Marseille. Et la SNCM, c'est 2000 emplois à Marseille, sans compter les emplois induits. Et 600 suppressions de postes aujourd'hui, j'espère que ça ne sera pas des suppressions de postes contraintes, mais qui seront lissées dans le temps et avec la meilleure justice sociale possible.
Alors Roland Blum, dans un communiqué, parle de naufrage possible de la SNCM. Vous le craignez également ?
Moi, je crois que le risque existe s'il n'y a pas un véritable projet industriel de qualité qui est porté par l'État actionnaire et la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, avec un actionnaire privé, bien entendu, ou des actionnaires privés, mais avec une participation forte de l'État et de l'autre côté de son bras armé, la Caisse des dépôts, qui sont tous les deux actionnaires de la SNCM.
La Caisse des dépôts va rester ? Il y a une crainte sur le
mais
départ, justement.
Justement, j'espère bien que ça ne sera pas le cas, parce qu'on a besoin de toutes les forces aujourd'hui pour proposer un véritable projet industriel à la SNCM. On parle de 4 bateaux, c'est insuffisant, il en faut 6 pour que la SNCM soit rentable et des bateaux de plus petite taille que les carféries d'aujourd'hui. D'un côté, on vend les carféries, de l'autre, on reconstitue une flotte de 6 navires beaucoup plus cadencés qui offriront un service de qualité. Je crois que c'est là l'avenir de la SNCM, mais il faut que l'État joue tout son rôle d'actionnaire.
Et là, vous avez eu des échos de la part de Paris ?
Rien pour l'instant. Je le dis très clairement.
On vous voit beaucoup intervenir sur ces dossiers-là, mais c'est avec des résultats qu'on peut attendre. Je pense à des échelles différentes de la SNCM, je pense à Fralib, où le MPM a préempté l'achat de terrain, et puis on est au millième jour de conflit, et il ne se passe toujours rien. Puis il y a une autre échelle, il y a le Virgin aussi, où on vous a vu à côté des salariés, mais là, pareil, projet coopératif alternatif et une grande difficulté à mettre en œuvre la musique.
Oui, c'est vrai. Ce sont des dossiers très difficiles, très compliqués, mais au moins, je dirais, je fais le travail qui est le mien. Je ne suis pas un élu spectateur. J'essaie d'être un élu acteur et d'un élu médiateur. Alors j'essaie de rentrer par la petite porte ou par la grande, parfois, c'est le cas de Fralib, dans ces conflits-là, pour essayer d'apporter ce que peut apporter à un moment donné une collectivité, à la fois en termes de symbolique et en termes d'action. Fralib, nous étions en capacité de préempter le terrain. Nous étions la seule collectivité capable de le faire, puisque les terrains de Fralib sont situés dans une zone d'entreprise qui est du ressort de la communauté urbaine. Quand le problème de Fralib s'est posé, c'est-à-dire que les ouvriers de Fralib allaient être expulsés de leur usine, j'ai préempté le terrain pour que ça ne soit pas le cas. Donc ils y sont toujours aujourd'hui, continuent à mener leur combat. Et leur combat, il est très clair aujourd'hui. D'un côté, vous avez une SCOP qui est prête à démarrer, avec un projet industriel qui vraiment tient la route. Je l'ai étudié, je suis allé sur place pour vérifier. Le projet industriel tient la route. La seule chose qui empêche le projet industriel de démarrer, c'est qu'Unilever, non seulement pas ne veut pas donner le nom, mais je dirais que ça, à la limite, le téléléphant, il pourrait changer de nom, c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est qu'Unilever refuse de donner pendant 2 ou 3 ans les tonnages nécessaires à la fabrication du thé de façon à ce que la SCOP puisse redémarrer. Et ça, je dirais que de la part d'Unilever, ce n'est pas bien. Une entreprise qui fait au niveau mondial près de 4 milliards d'euros de bénéfices pourrait très bien, pendant 2 ou 3 ans, apporter à Fralib le nécessaire pour pouvoir démarrer une scope et pour que l'entreprise continue à vivre.
Vous avez prévu...
Et Virgin, c'est pareil. Virgin, j'ai essayé à un moment donné d'alerter, je dirais, les pouvoirs publics, la ministre de la communication et de la culture, Aurélie Filippetti, pour lui dire, est-ce qu'on peut, au moment où Marseille 2013 est en train de véritablement démarrer, enfin, un élément de culture en plein hyper-centre-ville fermé. Moi, je trouve que ce n'est pas normal et je pense qu'il y avait des solutions alternatives pour pouvoir continuer l'activité.
Eugène Casilli, est-ce qu'on peut vivre avec une économie faite de scope ?
Non, pas du tout. Je ne dis pas que le scope est le... Mais je dirais que la scope, dans le cas de Virgin, n'était pas automatiquement la clé de la solution.
Tout à l'heure, vous avez rappelé que vous avez préempté les terrains. Ça va devenir une nouvelle prérogative, ça, de MPM, s'engager directement en préemptant. Certaines mauvaises langues parlent de simple opération immobilière, qu'à l'arrivée, il n'y aura pas grand-chose. Oh. Vous dites quoi, finalement ? Ça va devenir un moyen de...
Non, c'est pas ça du tout. Nous avions la capacité de préempter ce terrain-là parce qu'il était sur une zone d'activité, de zone industrielle, qui est une zone industrielle d'MPM. À partir de là, nous voulions garder la substance industrielle sur cette zone-là, et un fleuron comme Fralib de cette zone industrielle qui partait, pour nous, ce n'était pas une bonne chose. Donc on a préempté le terrain de façon à laisser le temps au ministre du redressement productif de trouver des repreneurs, et je dois constater qu'il ne les a pas trouvés jusqu'à maintenant. Et je dois constater aussi qu'on ne donne plus signe de vie au niveau de l'État concernant Fralib.
Non, puisqu'on parle de préemption, on ne va pas en arriver.
Par contre, MPM possède aujourd'hui un terrain et des locaux qu'elle a acheté à la valeur des domaines et qu'elle pourra revendre à la même valeur si un jour, je dirais, le problème de Fralib est réglé.
Donc le contribuable n'est pas lésé dans cette opération.
Pas du tout. Ou alors louer. Au prix, je dirais, au prix de l'immobilier actuel, des locaux en repreneur.
Alors, on reste dans la préemption, même si on ne l'imagine pas une seconde. Faisons un petit peu de politique fiction. Aujourd'hui, Bernard Tapie a été mis en examen. Il est en garde à vue, d'ailleurs. On peut imaginer que MPM préempte la Provence.
Ah non, mais là, on n'a pas la vocation à préempter n'importe quoi. Je vous l'ai dit, Fralib était sur une zone industrielle qui est du ressort d'MPM, qui était la zone d'activité de Gémenos, qui est une commune d'MPM. La zone d'activité est gérée par MPM, donc là on a préempté parce qu'il s'agissait d'une perte de substance industrielle dans cette zone. La Provence n'a rien à voir avec ça. MPM n'a pas vocation à être patron de presse.
Voilà, et sur l'arrestation justement, la mise en garde à vue. Et la garde à vue de Bernard Tapie, son arrivée à Marseille, avec qui vous avez déjeuné, je crois.
Oui, Bernard Tapie a voulu connaître tous les présidents des grandes collectivités. Hein. Il a vu Michel, il a vu Jean-Noël Guérini, il a vu Jean-Claude Gaudin, et il m'a vu à moi. Bon, ça a été une conversation autour de la Provence.
Vous avez vu son arrivée d'un bon oeil, parce que certains ont carrément souhaité qu'il soit sur leur liste. Vous, c'était votre cas ?
Ah non, moi j'ai jamais dit ça. Moi j'ai simplement dit que bon, il était bon que la Provence ait un repreneur effectivement qui paraissait sérieux en termes capitalistiques. Après, j'ai toujours dit qu'il fallait être très vigilant sur la ligne éditoriale du journal et l'indépendance des journalistes. Je m'en suis tenu là. À ce niveau, j'ai pas fait de politique fiction avec Tapie, candidat ou pas à la municipale. Là aussi, il fallait laisser le temps au temps et le laisser éventuellement se découvrir s'il avait une envie de ce type.
Ça me semble. Et sur le personnage, Bernard Tapie ?
Personnage Bernard Tapie, moi je n'ai pas eu de relation politique avec Bernard Tapie puisque je n'étais pas un personnage politique important à l'époque où lui faisait de la politique à Marseille. Lorsqu'il s'est présenté au régional, etc., j'étais un militant. Je n'étais pas un leader politique.
Michel ?
Au moment où Marseille se débat toujours pour améliorer son image, qui est toujours malmenée, est-ce que le patron du premier journal de Marseille et de sa région en garde à vue, est-ce que ça, c'est pas un coup dur de plus ? Est-ce que c'était pas prévisible ? Et toutes les questions que se pose la justice sur les origines de l'argent public qui a permis à Bernard Tapie de s'offrir ce groupe de presse, est-ce que Il n'y a pas quelque chose de regrettable dans toute cette histoire.
Ben, aujourd'hui, la justice fait son travail. Il y a un arbitrage qui est soumis à suspicion, dont la justice investigue. Bon, Bernard Tapie, aujourd'hui, est en garde à vue. Moi, j'en prends acte. On verra ce qui ressort de cette garde à vue. On verra les suites de l'enquête. Il n'est pas le seul à avoir été mis en garde à vue dans cette affaire. On semble remonter vers les plus hautes sphères de l'État. Donc, il faut attendre et voir. Il faut attendre et voir. Moi, je ne me prononce pas sur les affaires judiciaires sans avoir de véritable lisibilité aujourd'hui sur le rôle des uns et des autres.
Vous avez condamné, vous aussi, le Marseille bashing, ce qu'on appelle aujourd'hui le Marseille bashing de la presse parisienne. Comment vous expliquez, Eugène Caselli, vous qui êtes président de MPM, qui avez eu des responsabilités au sein du Parti Socialiste, que cette ville soit prompt à l'éclosion de personnages comme Bernard Tapie? Comment ça se fait qu'on ne les rencontre pas, par exemple, à Lyon, à Lille ou ailleurs, et qu'à Marseille, ça soit un terreau plutôt fertile?
Mais je crois que la culture politique est très différente à Marseille. Vous savez, Marseille est une ville méditerranéenne. Marseille est une ville de passion. Marseille est une ville rebelle. Oui, Marseille qui a regardé son histoire.
Hein. Enfin, rebelle, il faut relativiser. Godin, il est là depuis 15 ans. C'est pas non plus Che Guevara.
Oui, non, mais je parle sur la durée. Dans l'Antiquité, Marseille a choisi Pompée contre César. Ensuite, elle s'est heurtée à Louis XIV. Ensuite, elle a choisi la Révolution contre la royauté. Ensuite, elle a choisi Bonaparte contre la Restauration, enfin Napoléon contre la Restauration. Et puis, elle a été royaliste au début de la Troisième République. Donc Marseille est une ville très atypique dans le paysage français. En politique, c'est pareil. Il y a eu une culture d'après-guerre très dure en politique, avec les années de fer, un parti communiste qui était à 30% à l'époque. Donc, ils sont pris des habitudes très conflictuelles à Marseille en termes politiques, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans ce que je pourrais appeler beaucoup d'enfants de Gaston Defer qui sont encore là et qui ont commencé leur carrière politique sous Defer. Et effectivement, tout ça est un creuset pour une politique souvent de conflit. Et les personnages hauts en couleur, les personnages à grande gueule, dans Marseille, ça fait partie du paysage. C'est pas mon cas. Moi, je suis plutôt du genre plus réservé, peut-être avec une image de sérieux. J'essaie de pas parler trop fort. Moi, je préfère avoir une voix qui porte que de parler fort.
Alors, pour reprendre votre expression, dans la fameuse primaire à laquelle vous candidatez, il y a quelques grandes gueules. Vous pensez que c'est un atout aujourd'hui de parler posé, de pas parler très fort?
Je crois que, bon, moi, vous savez que j'ai que quatre slogans dans ma campagne, ça ne vous a pas échappé, c'est Marseille rassemblée, Marseille apaisée, Marseille gouvernée, Marseille pilotée. Je crois que les deux premiers ont une importance particulière. Je crois que rassembler, ça veut dire que cette ville a besoin d'unité. Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux villes, l'une qui réussit à peu près, on la voit, c'est Euro-Méditerranée, c'est tout ce qui se fait sur le J4, c'est le Vieux-Port, c'est Marseille 2013... tout ça, ça avance, ça marche, c'est un petit peu au-dessus de la crise. Et puis, il y a une autre partie de Marseille qui s'enfonce dans la souffrance sociale, économique, urbaine et sécuritaire. Alors, je crois que le rôle aujourd'hui d'un maire, c'est de rassembler cette ville, de mettre de l'égalité dans cette ville, de façon à ce qu'il n'y ait plus deux villes demain. Or, ce ne sera pas une partie facile. Là aussi, il va falloir du temps. Mais je crois que maintenant, il faut commencer à recoudre les deux Marseille. Et il faudra faire ce qu'il faut en matière de développement économique, en matière de développement culturel, en matière de développement sportif pour qu'il y ait de l'égalité dans cette ville. Et puis, Marseille apaisée, ça veut dire, il faut, je crois, demain, un maire qui ait les capacités d'apaiser les tensions dans cette ville et de ne pas, au contraire, cliver excessivement d'un côté ou de l'autre, parce que Marseille, fondamentalement, n'est ni une ville de droite, ni une ville de gauche. C'est une ville populaire. Et je crois que dans Marseille, il y a des gens des classes populaires qui votent à droite, comme il y a des gens des classes moyennes-hautes qui votent aussi à gauche. Donc je crois que Marseille est très diverse. Et cette diversité-là, il faut la fédérer. Il faut la fédérer, il faut apaiser cette ville. C'est une ville qui vit dans la tension. Et je crois que maintenant, il faut changer de rythme. Il faut réussir à apaiser de façon à ce que cette ville puisse se développer à la fois dans l'unité, à la fois dans la concorde et en oubliant un petit peu les pratiques qui ont été des pratiques qui ont longtemps été la coutume en politique.
Eugène Casilli, le portrait robot que vous faites du maire de Marseille rêvé, pour vous, vous pourrez vous correspondre évidemment, mais correspond aussi finalement pas mal à celui de Jean-Claude Gaudin, qui cliffe peu, qui est un personnage très, très rond. Est-ce que vous revendiquez, et jusqu'à quel point, cette forme de continuité? On a l'impression que la critique que vous faites en creux s'adresse plus à vos adversaires dans la primaire qu'au maire en place.
D'ailleurs, le leitmotiv de Jean-Claude Gaudin depuis qu'il est élu, c'est que cette ville se gagne et se gère au centre.
En tout cas, c'est toujours l'électorat qui varie entre la droite et la gauche qui fait la différence aux élections. On le voit, elles sont souvent très serrées. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une partie de la ville qui a plus ou moins réussi. Je crois qu'on aurait tort de faire semblant de croire qu'il n'y a pas des réalisations qui ont été faites en 18 ans. En 18 ans, c'est bien le moins qu'il y ait eu des réalisations. Par contre, Jean-Claude Gaudin a laissé une deuxième partie de la ville en déshérence. Il ne s'est pas occupé de Marseille dans toute sa continuité. Il s'est plutôt occupé d'une partie de la ville où il a des réussites. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une ville qui est coupée en deux. Qui est coupée en deux économiquement, qui est coupée en deux culturellement, qui est coupée en deux au niveau des installations socioculturelles, qui est coupée en deux au niveau du niveau de vie, qui est coupée en deux au niveau de la sécurité. Même si, s'il y a des problèmes d'insécurité dans d'autres arrondissements, mais enfin, il y a des arrondissements qui souffrent plus que d'autres. Marseille, c'est une ville avec 27% de taux de pauvreté. Et ça, on ne peut pas le mettre, je dirais, au crédit de Jean-Claude Gaudin. Ça serait plutôt à son débit.
Donc moi, Jean-Claude Gaudin, moi, c'est la partie de la ville que je n'administre pas, c'est là où il y a des maires socialistes.
Attendez, les maires de secteur, on le sait très bien, sont des maires de secteur, ils n'ont pas de pouvoir exécutif. Enfin, c'est sa majorité qui, depuis 18 ans, gère la ville.
C'est un argument qui martèle.
Oui, mais il peut le marteler, mais ça ne veut pas dire qu'il est juste pour cela. Cet argument-là n'est pas juste. Je crois qu'un maire a le devoir de s'occuper de l'ensemble de la ville. Et aujourd'hui, particulièrement, avec la situation que l'on connaît, on est arrivé à un moment où si on ne prend pas ce problème à bras-le-corps, si on ne commence pas à donner des débuts de solutions, je dis bien des débuts de solutions, parce que ce sera très long, à ce type de problème, on va devant de graves désagréments.
La Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille, avec nous aujourd'hui Eugène Casilli. On parle des primaires. Vous avez évoqué une ville à deux vitesses avec les quartiers nord. On va pas parler par les toits, on va les citer. Cette partie de la ville qui souffre de chômage, qui souffre de violence, la violence qui a encore fait des victimes ce week-end. Pour la violence, vous avez dit, pour régler ces problèmes, il faut du temps. D'autres sont beaucoup plus radicaux que vous, invoquent l'armée pour régler ce genre de problème. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Eugène Casilli? Est-ce qu'il faut rester dans ce consensus, dans ce changement doux, on va dire, ou est-ce qu'il faut être vraiment beaucoup plus radical?
Je crois qu'il faut des moyens, mais il faut pas. On n'est pas dans une insurrection urbaine aujourd'hui. C'est pas ça. On n'est pas dans une insurrection urbaine.
Il y a 9 morts depuis le début de l'année, 9 morts de morts violentes.
C'est 9 morts de morts violentes. Ce sont des bandes de dealers qui s'auto-éliminent, qui s'éliminent entre eux. Mais ce n'est pas une insurrection urbaine. Ce n'est pas des Français contre les autres aujourd'hui. Moi, le recours à l'armée, ce n'est pas du tout ce que je préconise, loin de là. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été faits en matière d'effectifs. Il y a les zones de sécurité prioritaires qui harcèlent en permanence les réseaux de drogue. Effectivement, ça donne, on le voit, la Castellane la semaine dernière, mais bien avant, il y a eu d'autres saisies. Il y a beaucoup plus de résultats en matière d'arrestation, beaucoup plus de résultats en matière d'élucidation, beaucoup plus de résultats en matière de saisie de drogue et aussi de cache d'armes. Donc, des résultats commencent à arriver. Mais à côté de cela, effectivement, il y a une guerre des gangs, on peut appeler ça comme cela, qui n'est pas résolue. Tout ça va demander énormément de temps. Le mal est tellement ancré, tellement profond, qu'il faut un long travail à la police, peut-être des effectifs encore supplémentaires, un cran encore supplémentaire, peut-être, mais il va falloir beaucoup de temps. On ne règle pas en quelques mois, ou même en un an, ou même en deux ans, un problème qui est le produit de 30 ans d'inertie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces quartiers? Pendant longtemps, les pouvoirs publics, quels qu'ils sont, ceux de droite et ceux de gauche, sont dit, oh, il y a des petits trafics. Ça permet d'apaiser. Ça permet d'apaiser les tensions, ça permet à des familles de vivre, et au moins il n'y a pas d'émeute urbaine, il ne se passe rien. Marseille, c'est un exemple, regardez, ça, on brûle les voitures ailleurs, beaucoup moins à Marseille, on se révolte en banlieue parisienne et pas chez nous. Mais puis, les petits trafics sont devenus peu à peu des gros trafics. Et des gens se sont énormément enrichis avec ces trafics, au point, finalement, de se tuer à qui mieux, pour garder leur part de marché. C'est ça qui se passe aujourd'hui. On a laissé dériver le problème et aujourd'hui, on le reçoit en plein visage.
Alors, vous dites volontiers, l'État doit reprendre toute sa place, mais en même temps, en tant que maire, vous préconisez, si vous êtes élu, bien entendu, l'augmentation de la police municipale. Pour quel rôle exactement ? Parce qu'on sait qu'à Marseille, il y a toujours des singularités. Par exemple, la police municipale ne travaille pas le dimanche. Vous feriez cette espèce de béabas qui semble un peu illogique aux auditeurs. Vous remettriez la police municipale au travail le dimanche, par exemple ?
Ah, mais je mettrais du bleu dans les rues, oui. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, Lyon, c'est 450 000 habitants en gros. Il y a 450 policiers municipaux. Nice, c'est 250 000 habitants. Je crois qu'il y a 320 policiers municipaux. Marseille, c'est 860 000 habitants. Jusqu'il y a peu, on avait 350 policiers municipaux. On en a maintenant 450. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut, comme à Lyon et comme à Nice, un policier pour 1000 habitants. Pourquoi ? En mettant des postes de police un petit peu dans tout Marseille, de police municipale, bien entendu, et qui agissent en complément de la police nationale. La police nationale, elle est là pour appréhender les délinquants. La police nationale est là pour faire des investigations, pour faire de l'infiltration, pour faire le travail qui débouche sur les arrestations des réseaux et des délinquants. La police municipale, elle est là pour patrouiller dans les rues et pas pour faire la circulation. Elle est là pour patrouiller dans les rues, pour montrer qu'il y a du bleu, ça rassure les gens, ça donne un sentiment de sécurité bien plus important que quand il n'y a personne dans les rues. Et la police municipale est là pour ça, elle est là en complément, mais dans tous les quartiers. Alors qu'aujourd'hui, on la voit essentiellement dans le centre-ville.
Est-ce que en période de crise, ça va avoir un coût, ça ? Vous pensez que c'est possible de cumuler cette politique-là avec des politiques de préventives pour combattre la misère et les causes de la violence ?
Alors, la politique
préventive... Est-ce qu'il y a des choix à faire ? Est-ce qu'on a l'impression que vous êtes sur un discours sécuritaire assez classique et que finalement, celui de vos adversaires de droite également ?
Et moi, je ne cherche pas à savoir... De qui je porte discours. Je sais que ce discours, c'est le mien, et c'est le mien depuis longtemps. Ce que je dis, c'est qu'il doit y avoir de l'égalité dans cette ville, c'est-à-dire de la police municipale dans tous les arrondissements. Pourquoi il y a la police municipale dans deux, voire trois arrondissements maximum, mais pas dans le reste ? Donc il faut plus de policiers municipaux, forcément. Ça veut dire aussi qu'ils doivent travailler la nuit, ça veut dire qu'ils doivent travailler le week-end, par roulement, donc il faut des effectifs, effectivement. Et puis, il y a les choix budgétaires. On sait que les 100 nouveaux recrutés par Jean-Claude Gaudin, policiers municipaux, c'est 3 millions d'euros. Voilà. On sait donc chiffrer dans le temps. Je dis qu'il faut le faire sur la mandature. Il faut jouer aussi sur les départs à la retraite de 11 600 employés municipaux aujourd'hui. Il y en a un certain nombre qui partent à la retraite. Donc, je crois qu'il faut là profiter de cela pour embaucher des policiers municipaux à la place de postes qui ne sont peut-être pas toujours utiles et qui partent à la retraite. Là, il y a de quoi jouer là-dessus. Vous avez 6 ans pour le lycée dans le temps et vous faites des choix budgétaires. Par contre, la politique de prévention, elle existe déjà. Elle est dans la politique de la ville, elle est dans la politique que les mairies mènent déjà avec les préfectures, etc. Ça, c'est un autre budget. Je crois qu'il faut faire à un moment donné des choix budgétaires, et c'est le rôle du maire de définir ses choix. Et ça, c'est un choix effectivement extrêmement important pour la sécurité des Marseillais.
D'accord, je reformule la question. Est-ce que vous allez déployer la même ambition, les mêmes budgets, par exemple pour développer les écoles, pour développer le tissu associatif, pour le tissu sportif ?
Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut s'attaquer à toutes les insuffisances de cette ville. Les insuffisances, on les connaît. On les connaît, et c'est toujours dans les mêmes quartiers, d'ailleurs. Moi, ce que je veux, c'est que l'on soit écolier dans le sud ou dans le nord, on ait l'école qui soit rénovée de la même façon.
En même temps, tout le monde s'accorde à dire pour que 2014, ça sera une mandature, ceux qui seront élus, ça sera une mandature de gestion de crise. Ça ne sera pas une mandature où l'on offre, où l'on propose beaucoup.
Non, je ne dis pas qu'il faut proposer beaucoup. Il faut lisser dans le temps et se donner un laps de temps, de savoir en combien d'années on le fait, mais il faut s'attaquer au problème. Le problème, si on dit on n'y arrivera jamais, c'est trop cher, on ne commencera jamais. Donc combien de temps il faut? Je ne dis pas qu'il faut le faire en un an. Combien de temps il faut et sur combien d'années on fait des plans pluriannuels de X années, 4, 5, 6, 7, 8 ans peut-être, etc., pour remettre au niveau les écoles qui ne sont pas au niveau en matière de rénovation. Combien de temps on met pour remettre les installations sportives qui ne sont pas au niveau en matière de rénovation, hein, dans les quartiers nord, on en souffre de cela. Combien de temps on met effectivement pour remettre à niveau, je dirais, l'aide au tissu associatif qui crée du lien social dans les quartiers qui en ont éminemment besoin. Ça veut dire aussi qu'il faut se poser la question d'associations éventuellement que l'on aide et qui ne font pas le boulot attendu.
Là, vous feriez un audit, vous, si ça ferait partie des choses que vous...
Je pense qu'il faut regarder cela, effectivement. Le rôle du maire, après, c'est lorsqu'il dirige une collectivité, de voir où l'argent de la collectivité va et s'il est utile au plus grand nombre, c'est-à-dire à l'intérêt général.
Donc, on peut dire que vous ferez un audit sur le milieu associatif?
Absolument.
Alors, on va revenir sur les dossiers de fonds, mais quand même, quelques mots sur ce dispositif des primaires. Il interroge, y compris au sein du camp socialiste. Il a marché à la présidentielle. Il va être expérimenté au niveau municipal et uniquement dans quelques villes, dont Marseille et Aix. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va être, que ça va marcher, que ça va mobiliser et que le candidat qui va être choisi grâce à ce système va l'être à bon escient? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une vraie dynamique, une transparence du scrutin et est-ce que vous êtes confiant?
Écoutez, je l'espère en tout cas. Je crois que les primaires ont prouvé à la présidentielle que ça pouvait être un formidable moyen de dynamique après pour l'élection qui suit. Mais à condition sine qua non, que tous les candidats jouent vraiment le jeu de la primaire. C'est-à-dire ne s'agressent pas les uns les autres, ne trouvent pas des arguments les uns contre les autres pour déglinguer le concurrent. Et puis ensuite, la droite reprend tous les arguments lors de la vraie campagne municipale. Donc il nous appartient à nous de jouer collectif, il nous appartient de porter chacun nos projets, porter chacun nos idées, ça c'est normal, hein, mais il faut qu'il y ait entre nous aucune agressivité.
Alors justement, Jean Caselli, sans histoire, les socialistes marseillais seraient un petit peu ennuyeux, on a parlé de l'organisation de ces primaires. Tous les candidats ne sont, semble-t-il, pas à égalité. Certains ont, il faut des parrainages. Certains n'ont pas accès aux fichiers des militants. Vous, est-ce que vous avez eu accès à ces fichiers?
Mais personne n'a accès aux fichiers des militants. Moi, je ne l'ai pas.
Et comment vous faites alors?
On a demandé à ce qu'on nous les donne. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse.
Je rappelle que c'est au mois d'octobre le vote. Et ça, vous en avez fait état à ceux qui sont censés gérer la fédération?
On l'a demandé à ceux qui sont... Qui organise la tutelle de la fédération. On en a parlé aussi à la haute autorité. On attend les résultats.
Et comment font alors en termes d'égalité les petits candidats? Parce que bon, vous avez géré anciennement le Parti Socialiste, la fédération du Parti Socialiste. Vous gérez Marseille-Provence-Métropole. Donc vous avez un certain nombre de militants qui gravitent autour de vous, mais les autres, donc il y a un problème d'égalité là.
Je pense que le problème d'égalité des petits candidats se pose effectivement, notamment au niveau des parrainages militants. Après les parrainages citoyens, chaque élu, je dirais, rassemble des gens, à eux de faire ce travail-là, y compris en faisant du porte-à-porte, etc. Il faut le faire. Mais par contre, au niveau des parrainages militants, ça peut poser un problème, sachant que je ne pense pas qu'il y ait plus de 2000 aujourd'hui socialistes en capacité de donner leur en capacité de donner leur parrainage à Marseille. Donc, pour 10 candidats, à 200 chacun, comme je pense qu'on ne se partagera pas chacun 200 parrainages, ça ne fait pas beaucoup pour la majorité. Bon, certains ne pourront pas avoir les parrainages militants demandés.
Alors, certains candidats vont plus loin, demandent à la presse de rappeler que les parrainages se font de manière anonyme, qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a un climat dans cette campagne?
Il n'y a pas de climat concernant les parrainages. Je pense qu'il faut expliquer aux gens, effectivement, que ces parrainages sont anonymes. Ils ne seront pas publiés dans la presse. Les gens ne verront pas leur nom affiché. Donc les gens qui ont envie de donner leur parrainage peuvent très bien le faire.
Ils pourront avoir une vie de section normale sans qu'il y ait des pressions.
Et puis, il y a les militants socialistes. Alors, si vous parlez des militants socialistes, il y a des militants socialistes qui donnent leur parrainage. Ils sont sollicités de toutes parts, je dois vous le dire. Donc certains hésitent, certains ne veulent en donner à personne, d'autres vont probablement en donner à plusieurs, ce qui les rend illégaux, puisque si quelqu'un donne un parrainage à deux candidats différents, le parrainage est nul. Voilà. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il y a une compétition pour avoir des parrainages militants. Ceux qui sont dans le parti depuis longtemps, et notamment dans des postes de responsabilité, n'ont pas tellement de problèmes. Par contre, ceux qui arrivent là, en tant que candidats, n'ayant pas, je dirais, de passé politique d'élu depuis longtemps, sont plus gênés.
Michel ?
Vous avez évoqué la mise sous tutelle de la Fédération des Bouches-du-Rhône, du Parti Socialiste. Elle a été faite pour diverses raisons, des soucis concernant son fonctionnement, sa transparence, des pratiques clientélistes qui ont été dénoncées par la direction nationale du Parti Socialiste. Donc, il y a une mise sous tutelle. Certains se plaignent du caractère très, très doux de cette mise sous tutelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens effectivement, qui s'occupent de l'organisation des primaires. On a l'impression que c'est un peu le statu quo pour le reste. Est-ce que vous avez le sentiment que le cadre de cette Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône est apaisé et que toutes les choses sont clarifiées et que ça crée un contexte favorable au bon déroulement de cette élection à l'automne ?
Je crois que la fédération n'est pas apaisée, elle est quasiment endormie par la tutelle. C'est-à-dire la tutelle ne s'occupe en fait que des primaires. Ce qui fait que l'avis de parti à Marseille, pour l'instant, n'existe plus. Il n'y a plus de vie de la fédération. Ce n'est plus le cas du tout. Ça sera très bien pour l'organisation des primaires. Ça permet de les organiser dans la sérénité, probablement. Par contre, la vie fédérale... jusqu'au municipal, n'existe pas véritablement.
Et alors des primaires qui vont se faire en excluant le MoDem, ça vous l'avez regretté, pourquoi donc ?
Mais je crois que le MoDem ici est plus proche de la gauche que de la droite, il fait partie de la majorité à la communauté urbaine, il fait partie du groupe Faire Gagner Marseille à la ville de Marseille. Donc, exclure une partie qui est plus marquée à gauche qu'à droite dans cette élection ne me paraît pas normal.
Il risque d'y avoir ce que disent certains, c'est que finalement, pour les primaires, ça se fera entre socialistes, mais qu'après, le candidat, rien n'empêche le candidat de faire alliance avec les primaires pour les municipales.
Oui, mais si on veut les primaires ouvertes, ça veut dire que l'ensemble des gens qui... peuvent concourir à la victoire de la gauche pourraient postuler. Alors il y a des partis qui ont dit très nettement qu'ils ne voulaient pas, l'Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche. Par contre, le MoDem était candidat à la candidature, ça lui a été refusé par les instances nationales.
Michel ?
Alors un mot sur le contexte aussi politico-judiciaire dans lequel vont avoir lieu ces primaires, les mises en examen, donc troisième mise en examen pour Jean-Noël Guérini, la mise en examen de la députée socialiste Sylvie Andrieux. On parlait tout à l'heure de Cahuzac, de sa circonscription, des effets négatifs dans les urnes. Est-ce que vous êtes inquiet du climat que peut faire peser ce contexte juridique ? Et est-ce que vous réclamez des éclaircissements ? Est-ce que vous espérez que les choses peuvent se clarifier d'ici là ou ça vous paraît secondaire dans...
Non, moi ce que je dis, c'est que les élus mis en examen doivent se retirer complètement à la fois du débat des primaires et de toute action dans les primaires. Je crois que ça serait une bonne chose pour tout le monde. Voilà, c'est tout simple.
Et pour la suite, ça ne va pas impacter ? Le candidat ne sera pas impacté par un Jean-Noël Guérini, par une Sylvie Andrieux, un Jean-David Ciot qui ont tous connu les tribunaux ?
Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, les élus socialistes qui participent aux primaires ne ressentent pas ça à titre personnel. Je ne crois pas que ça impacte véritablement sur les candidats aux primaires. C'est en tout cas ce que je ressens. Je peux me tromper, mais je ne le crois pas. Je crois qu'il y a un vrai besoin de changement dans cette ville. Il peut s'exprimer, mais il s'exprimera d'autant mieux que les candidats mis en examen ne se mêleront pas à la fois de la désignation aux primaires ni de l'élection municipale.
Alors cette envie de changement, elle passe aussi, Michel Guérou l'a évoqué, par la fin du clientélisme. Cette proximité que vous avez, certains candidats vous qualifient de candidat FO, cette proximité avec le syndicat FO, est-ce que ce n'est pas cette co-gestion qui est le début du clientélisme, Jeanne Caselli ?
Non, je ne crois pas. Je crois que le syndicat FO, il fait 60% des voix à la communauté urbaine, il le faisait avant que j'arrive. Donc moi, je gère une situation qui est celle d'un président d'intercommunalité qui a un syndicat hyper majoritaire. Donc je suis obligé de discuter avec eux. Discuter, ça ne veut pas dire passer sous les fourches caudines. Je crois que depuis maintenant pratiquement un an, on a entamé progressivement la réforme, par exemple, de la propreté, parce que c'est surtout là que ça joue. Finalement...
Ça n'a jamais été aussi propre que depuis ses primaires, hein. Certains le constatent. Hein.
Non, c'est que l'organisation commence à donner des résultats, et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, le fini parti. Pour le régler, qu'est-ce qu'on a fait ? On passe tous les arrondissements à la nuit, alors qu'ils étaient en partie de jour et en partie de nuit. On les passe tous à la nuit. Et la nuit, on supprime une benne. Donc si on supprime une benne, les tournées sont plus longues, donc ils travaillent plus. Déjà, le fini parti a pris un sacré coup dans l'aile. Deuxièmement, on a imposé le GPS à l'intérieur des camions. Donc on sait très bien où vont les camions. D'autre part, c'est pas encore optimum, mais on a supprimé le fini parti complètement pour les agents de maîtrise, qui sont obligés de contrôler véritablement, après coup, le travail des éboueurs. Donc, petit à petit, les choses effectivement avancent. Et ça, c'est une politique, non pas de co-gestion, ça c'est pas vrai, je récuse le terme, mais de travail sur le fond avec l'organisation syndicale qui est majoritaire. Et elle est majoritaire, c'est pas moi qui mets le bulletin dans l'urne. C'est les salariés qui votent pour eux. Moi, je discute avec les organisations représentatives. Maintenant, il n'y a pas de contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de système faux. Et puis, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que le premier secrétaire du syndicat a quand même changé.
Ça, c'est une bonne chose. Vous trouvez que ça a débloqué un peu les choses que Claude Argin ait des soucis avec la justice et qu'il soit
non,
plus là ?
C'est pas, non, il n'avait pas de soucis avec la justice. Le problème, c'est que ça s'est passé à l'intérieur de son propre syndicat. Je crois simplement que... Avec le nouveau secrétaire général, on a des rapports beaucoup plus ouverts, beaucoup plus, je dirais, de travail en commun, qui permet de commencer à avoir des résultats, effectivement. Mmh. Et au plus cela va, ils ont quand même accepté aussi notre stratégie de conteneur semi-enterré. Conteneur semi-enterré, ça fait moins de collecteurs. Donc, à terme, plus tard, il y aura moins de postes ouverts dans la propreté, puisque pour collecter, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Il faut beaucoup moins de monde.
Eugène Cazelli, vous venez d'utiliser le mot ou l'expression « ils ont quand même accepté ». Ce fait de toujours négocier, est-ce que, et on arrive à un autre sujet, est-ce que c'est pas ça qui fait peur également ? Il n'y a pas ça, pas seulement, mais est-ce que ça ne fait pas aussi peur aux autres maires qui redoutent cette grande métropole et cette co-gestion qui serait avec EFO, qui serait étendue aux 109 communes ?
Non, mais les 109 communes ne sont pas majoritairement EFO. Donc au contraire, la métropole élargirait beaucoup plus le champ syndicale, puisque je pense qu'il n'y aura pas automatiquement de véritable majorité syndicale.
EFO est hostile à cette métropole, c'est exprimé publiquement de façon...
Non, ils ne sont pas hostiles, ils veulent avoir des garanties sur les acquis des personnels des différentes intercommunalités, ce qui est bien normal pour un syndicalisme. Ça, c'est un langage de syndicaliste classique que l'on peut entendre, hein. De toute façon, c'est un travail qui sera long, c'est pour ça que j'ai dit que moi j'étais partisan dans la métropole au 1er janvier 2016 et pas au 1er janvier 2015, parce que fusionner sept intercommunalités. Moi, dans une autre vie, j'ai participé à la fusion de sept établissements bancaires en même temps. Je peux vous dire que ce n'est pas un petit travail. Et pour les intercommunalités, ça sera encore plus compliqué.
Donc, vous êtes le seul président d'intercommunalité à être favorable à la métropole sur le territoire qui la concerne. Ça vous donne une responsabilité particulière dans ce dossier. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu isolé ?
Ah, pas du tout. Moi, j'ai la conviction, chevillée au corps depuis toujours, que Marseille, autour d'elle, devait travailler avec un territoire beaucoup plus large et que ce territoire-là avait tout à gagner à travailler aussi avec Marseille. Je crois qu'aujourd'hui, on est en Méditerranée, en Europe du Sud, dans la compétition des territoires. Et si on rate le train du développement, on va vers une phase de déclin encore plus importante qu'aujourd'hui. Donc le seul moyen, c'est d'avoir une métropole puissante qui ait un projet commun, qui ait un projet collectif dans le domaine des transports, dans le domaine économique, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'habitat, parce qu'il faut aussi traiter ce problème-là à l'échelle métropolitaine, dans le domaine de l'université, de la recherche, de l'innovation, des pôles de compétitivité. Là, je crois qu'avec les potentiels qui sont ceux de ce territoire, si ce territoire ne marchait pas de façon complètement balkanisée, chacun pour soi, chacun de son côté, chacun avec ses petits arrangements de son côté, mais au contraire, de façon compacte, comme le fait Barcelone, comme le fait Gênes, comme le fait Lyon, qui nous donne quand même un exemple pas très loin de chez nous de ce qu'il faut faire. Et bien peut-être que on irait vers une phase de développement beaucoup plus rapide que ce que l'on croit.
Cette hostilité.
Et, attendez, il y a un truc qui est très important aussi. Oui. Si on n'a pas un projet métropolitain, on n'aura pas de l'argent de l'État. Alors, il y en a qui appellent toujours l'argent de l'État à la rescousse, mais l'État ne donnera de l'argent que s'il y a un véritable projet métropolitain construit qui nous projette dans l'avenir. Sinon, l'argent de l'État n'arrivera pas.
C'est ce que disait François Hollande, si ça ne se fait pas, c'est Marseille au final qui paiera, c'est ça?
Et je crois que oui, absolument. Mais les autres aussi, et autant que nous, parce qu'ils ont basé toute leur prospérité sur la fiscalité de l'époque, c'est-à-dire la taxe professionnelle, et aujourd'hui la taxe professionnelle n'existe plus. Et la dotation qu'ils ont se réduit chaque année parce qu'elle n'est pas revalorisée. Donc dans 10 ans, ils seront à la limite aussi d'avoir des problèmes financiers lourds. Donc il faut grouper nos forces, mutualiser nos moyens pour être plus fort et plus puissant.
Cette hostilité, Eugène Cazelli, c'est une hostilité qui est motivée par la proximité des sénatoriales ou c'est quelque chose qui va se décanter juste après?
Il y a deux choses qui jouent. Il y a d'abord les sénatoriales qui ne sont pas loin. Il y a des jeux, effectivement, liés au sénatorial. Il ne faut pas l'occulter. Ça joue. Il y a aussi certains qui voient, il y a une gestation en 2020, une possibilité d'un schéma lyonnais où le Conseil général n'existe plus et qui s'y oppose. Et puis, il y a des jeux de tas d'élus qui estiment aussi qu'il est facile de se faire réélire en faisant campagne contre Marseille.
Harlem Désir, il y a quelques jours à Aix, au cours des ateliers du changement, a déclaré « le système Guérini est mort ». Mais sur ce dossier de la métropole, comme sur d'autres dossiers, le président Guérini est très présent et il n'arrête pas, par exemple, d'exprimer son hostilité vis-à-vis de ce projet. Alors, est-ce qu'on peut avancer dans ce contexte-là et comment faire?
Écoutez, de toute façon, il ne faut pas se préoccuper de ce que font les uns et les autres. Si on estime que la métropole, c'est de l'intérêt général, il faut aller vers la métropole. On va se heurter, bien entendu, à tous les conservatismes possibles.
Enfin, le premier heurt se fera le 10 juillet, puisqu'il y a une manifestation contre la venue du Premier ministre.
Oui, écoutez, moi, plutôt que de mobiliser les populations les unes contre les autres, il ferait mieux de réfléchir à l'avenir. Et l'avenir, il est forcément métropolitain. Et ils le savent tous très bien.
La métropole qui a été rebaptisée métropole ex-Marseille-Provence pour éviter un effet hégémonique de Marseille. Est-ce que vous pensez, certains le disent, que ce serait bien qu'elle soit, le jour où elle sera créée, présidée par un non-Marseillais?
Moi, ça ne me dérange pas. J'ai déjà dit que si j'étais candidat à la mairie, je n'occuperais que le poste de maire.
Tous les candidats disent ça. En même temps, il n'y a aucun intérêt à occuper le poste de maire, puisque tout sera décidé en grande métropole.
Ça ne fait rien. Le maire de Marseille, vous comprenez très bien qu'il est le maire de la deuxième ville de France.
Ça sera honorifique, on va dire.
Non, c'est pas simplement honorifique. Je crois que le maire de Marseille, il a un poids moral qui est très important et qui lui permet de peser sur les décisions. Personne ne peut, balayer d'un revers de main l'avis du maire de Marseille. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Parce que le maire de Marseille est un élu au suffrage universel de la deuxième ville de France et d'une population qui fait 47% de la future métropole. Donc se passer du maire de Marseille, c'est une vue de l'esprit. Donc être maire de Marseille, c'est peser dans le débat, ce qui ne veut pas dire s'occuper de tout. Et moi, je suis partisan d'un seul mandat, je l'ai toujours dit, et moi, je le pratique au moins.
Alors, on arrive presque au terme de l'émission. 5 ans à la tête de Marseille-Provence Métropole. Beaucoup de changements dans la ville de Marseille, puisque ça fait partie des prérogatives. Celle dont vous êtes le plus fier, Eugène Cazelli?
Ah, c'est le Vieux-Port. C'est le Vieux-Port parce que c'est là où j'ai eu le plus de critiques, en fait. Et j'ai tenu bon dans ce contexte-là, avec les élus qui me soutenaient. Je savais que ça allait être un projet extrêmement emblématique pour Marseille, qui n'est pas fini d'ailleurs, puisqu'il y a la deuxième partie à faire. Mais je savais qu'en en s'appuyant sur des architectes de la taille de Michel Dévin d'un côté et de Norman Foster de l'autre, et sur le projet qui était le leur, on allait avoir un Vieux-Port magnifique, une véritable agora urbaine dont avait besoin la ville. Je crois que toutes les grandes manifestations qui ont eu lieu, avec l'ancien Vieux-Port, on n'aurait pas pu les faire de la même façon. C'était rempli d'obstacles. Aujourd'hui, on a une véritable agora où les Marseillais se retrouvent. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a réussi à réduire considérablement la place de la voiture. Côté mairie, par exemple, on a réduit de 80%. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans les immeubles Pouillon n'avaient jamais utilisé leur terrasse. Aujourd'hui, toutes les terrasses fleurissent de tables et de chaises, ce qui veut dire que les gens arrivent à déjeuner sur leur terrasse qu'ils ne faisaient pas avant. Les familles ont réinvesti le Vieux-Port. On voit des tas de gens avec les enfants, avec les poussettes. Et c'est un lieu de promenade aujourd'hui. C'est même plus un lieu où l'on passe. Jusqu'à maintenant, c'était un lieu où on ne faisait que passer. Là, c'est devenu un lieu de promenade. Ensuite, l'Ombrière de Foster est une véritable œuvre d'art qui marque Marseille, parce qu'il n'y a que deux endroits où il y a des œuvres comme ça. Il y a Chicago, il y a le haricot, un fameux haricot de Chicago, et puis il y a la Grande Ombrière de Norman Foster à Marseille. Donc, je crois que c'est quelque chose qui vous pose une ville en termes de notoriété, en termes d'attractivité. Je suis très fier d'avoir résisté à la pression, parce qu'il fallait réaliser en 8 mois un chantier qui aurait dû normalement durer 15 mois, parce qu'on avait la pression du 12 janvier absolument, être pris le 12 janvier pour rendre le Vieux-Port aux Marseillais. On a réussi à le faire. Et deuxièmement, il a fallu résister aux critiques pendant 8 mois. Qu'est-ce que j'ai pas entendu ? Mais aujourd'hui...
MDM a beaucoup aidé d'ailleurs pour l'accélération de ce chantier. Il y a beaucoup de chantiers qui s'enlisent. Mmh. On pense à la L2. MPM a accéléré, comme beaucoup d'autres projets, j'imagine.
Ben, on s'est donné les moyens de faire un chantier de 15 mois à 8 mois. C'est-à-dire qu'on a doublé les équipes. Ce qui veut dire que quand l'enjeu est majeur, eh bien, on fait ce qu'il faut pour réussir. Je crois qu'on a fait ce qu'il faut pour réussir. Et moi, je félicite toutes les équipes qui ont participé à ça, parce que c'était un chantier considérable.
Sur ce Vieux-Port, vous dites que c'est un beau succès, on est à l'équilibre, il faut s'arrêter là ou faire quelques aménagements supplémentaires. Ou alors non, il faut y aller, il faut aller plus loin et peut-être piétoniser complètement. C'était une idée qui a été défendue il y a quelques années.
Ah, mais le jour où la L2 est terminée, on va piétoniser le Quai des Belges, hein, ça c'est clair.
Et là, il faut monter à Notre-Dame-de-la-Garde pour la L2.
Alors, monter à Notre-Dame-de-la-Garde, moi, j'ai, dans l'appel à projet du Grenelle 3 qu'a lancé le ministère des Transports, nous avons concouru, bien entendu, pour que l'État nous aide sur notre politique transport. Dans la politique transport, on a mis le tramway aérien, qui n'est pas automatiquement, d'ailleurs, celui qui pourrait se faire entre le fort d'Entrecasteaux et Notre-Dame-de-la-Garde. C'est aussi une possibilité de tramway aérien entre la gare de Saint-Antoine et l'hôpital Nord. Là aussi, ça aurait un sens.
D'accord. En parlant de travaux qui prennent du temps et qui ont du mal à se réaliser, Didier Réau, qui est élu UMP proche de Quitte-Tessier, voulait vous poser une question. Sur le boulevard urbain sud, alors il pose la question plutôt directement, c'est pour quand ?
Les équipes à Tessier sont véritablement obsédées par le boulevard urbain sud. C'est devenu pour eux un gimmick de campagne. Bon, je vais leur faire la même réponse qu'avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, la communauté urbaine seule n'est pas en capacité de réaliser le boulevard urbain sud. Nos finances ne nous permettent pas. Moi, ce que je regrette, parce que nous finançons déjà la L2 à 22,5%, ce qui nous coûte 30 millions par an. Moi, ce que je regrette, c'est quand la communauté urbaine était sous majorité de droite, et qu'à ce moment-là, on ne finançait pas la L2, pourquoi n'ont-ils pas fait le boulevard urbain sud ? Et je double la question, pourquoi ont-ils permis à Castorama de s'installer ? Pourquoi font-ils un PAE avec 1500 logements derrière Castorama, sans avoir prévu les moyens de transport et les moyens de voirie qui permettent de désenclaver la zone ? Voilà, on met toujours dans cette ville la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on fait les choses et puis après on demande les transports et on demande les voiries. Ça, ça ne marche plus comme ça. Nous, par exemple, la communauté urbaine, on a anticipé l'arrivée d'Euroméditerranée 2 au boulevard du Capitaine Gèze, c'est-à-dire on marchait aux puces, et on amène dès aujourd'hui, dès 2015, le tramway en aérien jusqu'à Capitaine Gèze et la grande gare multimodale. Donc nous, on anticipe. Mmh. Eux, ils n'anticipent rien et après, ils critiquent ceux qui sont aux manettes.
En un mot, Euromètre 2 arrive à terme en 2025. Il y aura un Euromètre 3, oui ou non ?
Moi, j'ai demandé à Jean-Marc Ayrault, qu'il avait repris dans sa conférence de presse depuis, il n'en parle plus beaucoup, mais j'espère qu'il n'a pas oublié l'idée, c'est l'Euroméditerranée du centre-ville.
Eugène Caselli, je vous remercie. Allez, on se retrouve non pas le mois prochain, parce que c'est les vacances, mais dès le mois de septembre. Bye.
Au revoir.
Ciao. Le Ravi, Radio Grenoble.